Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Comment les États-Unis sont-ils devenus les gendarmes économiques de la planète ? La question se pose alors que depuis une dizaine d'années, des entreprises étrangères et particulièrement européennes subissent les foudres des procureurs du département américain de la justice et des directeurs des agences de régulation financière. Des sociétés soupçonnées de corruption ou de violation des embargos décidés unilatéralement par les États-Unis à l'encontre de pays comme Cuba, l'Iran, la Libye ou la Corée du Nord se voient infliger des amendes qui se comptent en centaines de millions, voire en milliards de dollars. L'utilisation du billet vert ou de serveurs informatiques américains suffisante à placer les entreprises sous la juridiction américaine. Une véritable répression économique particulièrement déstabilisante pour les entreprises concernées. Que reflète cette agressivité des États-Unis ? Quelles conséquences géopolitiques ? Dans quelle mesure aussi cette stratégie de Washington peut-elle se retourner contre les États-Unis ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Pierre Lelouch, avocat, ancien ministre, co-auteur avec Karine Berger d'un rapport d'information parlementaire sur l'extraterritorialité du droit américain. Bonjour.
Bonjour Madame Chatin.
Et Ali Laïdi, chercheur associé à l'IRIS, chroniqueur à France 24, auteur de « Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes » aux éditions Actes Sud. Bonjour.
Bonjour.
De quoi est-il question avec ces lois américaines d'extraterritorialité ? Vous parlez, Pierre Lelouch, dans le rapport d'un mur de législation américaine extrêmement touffu, avec une intention précise qui est d'utiliser à des fins d'impérium économique et politique dans l'idée d'obtenir des avantages économiques et stratégiques, et tout cela au nom des meilleures intentions du monde. Les États-Unis se définissant comme un benevolent power, c'est-à-dire un pays qui ne peut faire que le bien. Votre rapport date de 2016, rapport d'information. Comment les choses ont-elles évolué depuis ? Pierre Lelouch.
Malheureusement, il s'est passé deux choses. D'une part, la créativité législative du Capitole et du Congrès n'a cessé d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de domaines dans lesquels des lois sont prises à application universelle, à application mondiale. Les dernières en date, par exemple, concernent la lutte contre le dopage et la moralisation du sport. À peu près tous les secteurs de l'activité humaine vont maintenant être régentés par des lois prises aux États-Unis et qui ont vocation à s'appliquer partout. Dès lors qu'une entreprise a un citoyen américain à l'intérieur, ou qu'elle a une filiale aux États-Unis, ou qu'elle utilise le dollar, ou comme on l'a noté, un serveur américain, considère que le droit américain s'applique. La seconde chose qui s'est passée depuis 2016, malheureusement, c'est que même s'il y a commencé à avoir une prise de conscience, notamment en France, à cause de mon rapport, et du fait aussi qu'il a eu un impact sur la rédaction de la partie internationale de la loi Sapin 2, sur la lutte contre la corruption internationale. Donc s'il y a eu un début de prise de conscience du problème, dans les faits, il se passe absolument rien. Au contraire, la soumission, la capitulation en race campagne des gouvernements européens devant ce rouleau compresseur normatif qui se déroule, l'Europe n'a fait que s'aplatir et parfois même s'aplatir préemptivement. L'affaire exemplaire des derniers mois, ça a été bien entendu la dénonciation unilatérale par le président Trump du JCPOA, c'est-à-dire l'accord nucléaire sur l'Iran. Dénonciation unilatérale qui a amené à l'effondrement de cet accord, puisque, comme vous le savez, il y avait un contrepartie du gel du programme nucléaire iranien, qui n'était pas parfait, enfin c'était la solution qui avait été adoptée par la communauté internationale après 12 ans de négociations. Donc il y avait d'une part le gel du programme nucléaire, de l'autre part la reprise des négociations commerciales, mais il n'y a plus de négociations commerciales puisque la loi américaine interdit à tout le monde, à toutes les banques, à toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité, de travailler avec l'Iran. Et là, au lieu de résister, on a fait des déclarations d'intention, notamment Bruno Le Maire a multiplié les déclarations martiales. Enfin, derrière, il se passe rigoureusement rien. Les entreprises françaises, naturellement, sont sorties, les autres aussi. Et donc, de facto, on est dans une situation aujourd'hui où, pour avoir une décision souveraine de la part d'un État européen, ou la France, concernant un pays donné, cette décision, aujourd'hui, elle va être soumise à l'accord préalable, non pas du département d'État seulement, mais ça peut être d'une officine ou d'une agence américaine. Il faudra demander la permission avant d'avoir des relations commerciales avec telle ou telle nation. C'est la fin de la souveraineté de la politique étrangère de la France. Je le dis avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de solennité. On est en train d'atteindre un point de non-retour en Europe. Si on ne se réveille pas très vite et qu'on ne prend pas des contre-mesures brutales, fortes, contre ce qui est en train de se passer, je crois qu'il faudra arrêter d'amuser la galerie avec l'Europe puissance et les élections européennes, parce que ça ne servira rigoureusement à rien. On en est là. Encore une fois, c'est pas une exagération, c'est pas un énervement, c'est la constatation des faits. J'ai calculé que rien que sur le front de la corruption et des sanctions, des contournements de sanctions, les agences et les tribunaux américains, depuis le début de l'année, ont imposé quelque chose comme 3 ou 4 milliards de dollars de pénalités à des entreprises européennes.
Depuis
ou autres.
Début 2019,
Les 3 derniers mois. Et ce qui est nouveau, c'est que maintenant, il y a même les Chinois qui sont visés. Ça va être vraiment intéressant à regarder. Ils ont tapé des sociétés russes, mais maintenant aussi des Chinois. Donc ça va commencer à devenir intéressant de voir comment les Chinois, mais on y reviendra, réagissent à tout ça.
Alors il y a beaucoup de choses évidemment dans ce que vous avez dit, Pierre Lellouche. On reviendra sur les questions de la fin de la souveraineté et de la politique étrangère indépendante de la France par rapport à tout cela. Ali Laïdi, qu'est-ce que l'on peut dire de la stratégie américaine? Comment finalement tout cela a commencé? On peut peut-être souligner aussi cette différence de culture des deux côtés de l'Atlantique, avec côté américain un système qui est complètement tourné vers la défense des intérêts économiques américains, et avec les services de renseignement qui se sont mis au service de tout cela.
Ouais. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, le fait d'exporter leurs lois, c'est une réflexion qui est assez contemporaine. Si on prend par exemple l'axe de la lutte contre la corruption, ils décident en 77 de faire une loi pour viser les entreprises américaines. Et puis très rapidement, dès 77, ils s'aperçoivent qu'il faut aussi que les entreprises étrangères puissent être soumises à ce type de loi, sinon il va y avoir ce qu'ils appellent une distorsion de concurrence sur les marchés. Donc leur objectif, c'est faire en sorte que l'ensemble du monde adopte les mêmes critères, et ils y parviennent 20 ans après, en 97, avec l'adoption par l'OCDE de la Convention de la lutte anticorruption.
Oui, mais c'était un traité international.
Voilà. Mais ils ont lobbyé pour faire en sorte, parce que dès 77...
Mais on est passé par le traité.
Oui, mais dès 77, un certain nombre de pays, notamment la France et les pays occidentaux, étaient contre le fait, à l'ONU, de porter cette question de la corruption. Parce que déjà, on voyait à l'époque, je le cite dans mon livre, on voyait à l'époque les implications extraterritoriales de ces lois-là. Donc on avait déjà peur. Ensuite, il y a l'autre axe qui est l'axe de la lutte contre les violations de l'embargo. Là, ça commence... pour nous, vraiment fortement, en 96 avec la loi Helms-Burton sur Cuba, D'Amato Kennedy sur la Libye et l'Iran. Et on réagit pas, comme dit Pierre Lellouche, alors que, bon, on avait même un signal faible dès 82, quand Reagan veut imposer aux filiales des entreprises américaines de ne pas participer à la construction du gazoduc qui amène le gaz soviétique en Europe, et que Margaret Thatcher tape du poing sur la table, il dit hors de question que vous nous imposiez votre point de vue. Donc il y avait des signaux faibles, des signaux qui étaient encore plus faibles, mais encore plus fortement au rouge en 96 sur les contournements des lois d'embargo. Et puis on n'a rien fait, et arrive le rapport Lellouche, et tout à coup, les gens s'aperçoivent que quand même, il y a un gros, gros problème. Et depuis le rapport Lellouche, j'en termine juste par ça, qui date donc de 2016, on a vu quoi? On a vu une loi sur le Cloud Act américaine qui dit tout simplement, on va aller espionner les serveurs des entreprises américaines qui ne sont même pas situés dans le territoire américain, mais partout dans le monde. Ensuite, on a vu la loi Firma au mois d'août. Hein. La loi Firma, c'est quoi? C'est de dire, nous avons un système de surveillance des investissements étrangers aux États-Unis. Nous considérons que nos alliés doivent appliquer le même modèle que le nôtre, sinon nous n'aurons pas de partenariat. Donc la loi Firma, qui protège les investissements étrangers aux États-Unis, doit s'appliquer aux Européens. Et puis, dernièrement également, on a la loi ECRA, qui est Export Control Reform Act, qui dit quoi? Ben, qui dit tout simplement que maintenant, le département du commerce va pouvoir donner son avis sur l'exportation des technologies de pointe américaines, civiles. Donc, il va falloir, comme dit Pierre Lellouche, aller frapper à la maison, à Washington, et à chaque fois, demander l'autorisation, sinon on va être pointé par les tribunaux américains.
Je reviens un peu sur ce que Ali Laïdi a présenté comme des signes faibles. La tentation américaine d'utiliser là le droit comme une arme de dissuasion ou de frappe est très ancienne. Rappelez-vous la conférence de presse du général de Gaulle en février 65 sur le dollar, où il critiquait le fait que les Américains utilisaient le dollar comme une arme, qu'ils pouvaient s'endetter gratuitement, il avait proposé la réforme du système monétaire international. Donc c'est très ancien. Et puis rappelez-vous la phrase de Connolly en 71, le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. C'est-à-dire ça fait partie de l'impérium américain, sauf que en 1982, quand les Américains ont essayé de stopper le gazoduc de Yamal, l'Europe a résisté, à commencer par l'Anglaise, Maggie Thatcher. Quand il y a eu Helms Burton, il y a eu un autre Anglais, Léon Brittan, qui au nom de la Commission européenne, tenez-vous bien, c'est important de le rappeler, cette période de Brexit, c'est un négociateur britannique qui a stoppé l'application d'Helms Burton sur Cuba. C'est ce qui nous a permis de travailler à Cuba toutes ces années.
Aujourd'hui, un marché de dupes.
Non, Pierre,
mais
pas de dupes.
Parce que ça a fait retirer la plainte de l'Union européenne devant l'OMC.
Mais
c'était sans doute
on avait pris...
ce qui pouvait amener... à la réflexion monsieur, sur la radicalité, sur la racine de ce problème. Donc c'est un échec, monsieur, c'est un marché de dupes.
Non, monsieur Laïdé, à l'époque, l'Europe a fait plusieurs choses. D'abord, elle menaçait de saisir l'OMC, elle avait dressé une liste de sanctions miroirs contre les sociétés américaines qui allaient être ciblées si eux ciblaient nos sociétés. Et troisièmement, on avait pris une directive de blocage interdisant aux entreprises européennes de se soumettre aux juridictions américaines.
C'est la loi de 1968.
Le blocage 68, c'est la loi française.
C'est la loi française qui n'a jamais été appliquée.
Donnée par les Américains. Nous, on ne l'appelle pas la loi de blocage. C'est les Américains qui l'ont baptisé ainsi.
Donc, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a cette histoire derrière nous. Et les premières tentatives sur la corruption ont été multilatérales. En passant par les traités de la même façon, en matière de sanctions, il y a des cas où, sur l'Afrique du Sud ou sur l'Ukraine, par exemple, les sanctions sont multilatérales. Si nous acceptons tous, nous considérons qu'il y a un problème et on met des sanctions, la sanction est d'autant plus efficace qu'elle est partagée. Ce qui est nouveau aujourd'hui, et ça, je pense que ça tient à la financiarisation du capitalisme et la mondialisation depuis la fin de la guerre froide, c'est que comme l'actionnariat des grands groupes a changé et qu'il est beaucoup détenu par les fonds de pension américains, que les règles comptables sont devenues américaines, les Américains s'autorisent, sans traité, sans l'accord des autres, à prendre un certain nombre de mesures unilatérales qui s'appliquent ipso facto à des sociétés dont le capital est souvent détenu par des Américains. Prenez Airbus, qui est théoriquement une société européenne, elle est sur le marché, il y a plein d'investisseurs non européens, et puis surtout la moitié des Airbus, c'est du matériel américain. Donc, par plusieurs bouts, si j'ose dire, la machinerie américaine fait que ça devient très compliqué. Sauf s'il devait exister une réaction politique très forte... Et si, par exemple, on imposait les mêmes pénalités, moi, je m'étais forcé de faire ça.
Une réciprocité, un rapport
bien
de
entendu.
Force.
Bien entendu. J'ai mis dans la loi Sapin 2. J'ai mis dans Sapin 2 la possibilité pour les juges français de s'en prendre à des filiales américaines en France et donc de faire jouer des pénalités.
Mais Pierre Lelouch, à chaque fois, il y a eu ça. Dans le règlement de 96 européen, il y a eu la possibilité de répondre. Dans Sapin 2, il y a la possibilité de répondre. Le grand drame, c'est qu'aucun outil n'est utilisé. On refuse le rapport de force.
Voilà.
On ne veut pas froisser l'allié américain. C'est là qu'il faut entendre aussi.
C'est là qu'il faut regarder ce qui se passe dans la boutique européenne. Il y a des gens qui ont encore une vision de la souveraineté et de la politique, et je veux croire que c'est le cas de la France. Bruno Le Maire, je ne mets pas en doute son honnêteté intellectuelle quand il dit qu'il faut réagir. Le problème, c'est qu'il ne peut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? Et là, dans les tout derniers jours, à Bruxelles, la France a été isolée sur la reprise des négociations commerciales. Pourquoi? Parce que ces décisions sont prises à la majorité et que c'est l'Allemagne qui tient les blocs. Quand l'Allemagne craint des représailles américaines sur ses ventes d'automobiles, eh ben, elle va accepter le diktat américain pour sauver son industrie automobile. Et donc, toute tentative ensuite de taxation des GAFA, de modification des règles commerciales, d'exigence de réciprocité, sont sérieusement handicapées par le fait que si la première puissance économique en Europe ne veut pas jouer cela, derrière, le décrochage français fait que nous ne sommes plus capables d'entraîner la machine européenne. Et la vraie question, ça va être ça. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour qui fait que la France ne peut plus servir de l'Europe pour défendre ses intérêts stratégiques? Je pense malheureusement qu'on en est là.
Mais oui. Donc il est temps de se repositionner par rapport à cette question-là.
Mais évidemment, ça devrait être la question centrale d'ailleurs dans l'élection européenne. C'est de savoir si, en continuant, j'entends M. Macron qui nous parle de progressisme, mais toujours aller dans le sens de plus d'Europe. Mais si plus d'Europe égale plus de paralysie, il en sait quelque chose, puisque lui, il revient d'un sommet à Bruxelles où il ne voulait pas reprendre les négociations commerciales. Elles vont être reprises dès lundi à Bruxelles par le vote du Conseil, où la France va être isolée.
L'argument de la France étant de dire qu'elle ne veut pas reprendre ces négociations parce que les Américains se sont retirés de l'accord sur le climat.
Oui.
Alors, la position de l'Allemagne, elle peut étonner également à l'IAID, parce que des entreprises allemandes sont aussi, au même titre que des entreprises françaises, ciblées par ces lois d'extraterritorialité américaine.
La réaction d'Angela Merkel, elle a dit texto, il est normal et logique que les États-Unis poursuivent à l'extérieur de leurs frontières lorsqu'il s'agit de corruption. Donc c'est clair que c'est pas sur Berlin qu'il faut compter. Jamais Berlin ne manifestera un quelconque refus de la loi américaine. C'est très clair. Il y a un atlantisme qui est encore plus fort qu'en France. Et donc, la machine européenne est totalement grippée. Donc, faut pas compter là-dessus. Moi, j'ai fait au moins 5-6 voyages à Berlin pour cette enquête pendant 2 ans et demi. J'ai vu, sincèrement, des hauts fonctionnaires complètement perdus par rapport à cette question-là, qui ne savaient pas comment réagir, avec quel outil réagir, etc. Mais en fait, c'est même pas une question d'outils. Il s'agit de repenser de manière générale ce que sont les affrontements économiques au sein de ce monde-là, qui est un monde d'hyper-compétition économique. Et donc, quand on leur parle de doctrine de défense économique en Europe, ils ouvrent des yeux grands comme ça, ils ne savent absolument pas ce que c'est. Il n'y a pas de réflexion sur le rapport de force.
Cette naïveté européenne, elle a de quoi te surprendre tout de même, Pierre-Louis.
Si vous voulez, il faut presque revenir à la philosophie de la construction européenne. Et il y a dans un récent petit livre, Régis Debré résume ça très bien. Il n'est pas le seul, mais fondamentalement, l'Europe, elle n'a pas été faite pour faire la guerre. Elle a été faite pour faire la paix et donner la sécurité aux Américains. Et en échange de quoi, on avait un petit marché intérieur et tout le monde était content. L'idée de puissance a été évacuée du psyché européen exprès. La notion de puissance brute, aujourd'hui, malheureusement, c'est la retour de la puissance brute. Les Russes s'en privent pas, mais plus encore les Chinois et les Américains. On est dans le domaine des méchants. On n'est pas dans le post-national gentil à la Bahamas. Or, malheureusement, les gènes de l'Union européenne, c'est tout ça va s'arranger par la négociation tranquillement et les bons sentiments. C'est pas du tout ça. Et c'est là que, quand je parlais d'un moment historique important, et on a peut-être dépassé le point de non-retour parce que l'Europe n'a pas voulu voir les signaux faibles ou forts de toutes ces dernières années. Elle n'a pas voulu se préparer. Elle n'a pas pris les règlements ou les décisions. Elle pourrait. Nous sommes le premier marché économique au monde. On a un excédent commercial de 150 milliards par rapport aux États-Unis. C'est pas rien. On est en déficit par rapport à la Chine, mais par rapport aux États-Unis, on est encore plus que vaillant. On a des atouts considérables. Mais on les utilise pas. Pourquoi on les utilise pas? Parce que cette prise de conscience, il y a plein de pays qui, au contraire, acceptent toutes les décisions de Washington. Je pense aux Polonais, ceux qui sont sortis du bloc de l'Est. Ils ne rêvent que de protection américaine. Ce que raconte Macron ou la France, ça ne les intéresse que de très très loin. Quant à l'Allemagne, c'est tout le problème de l'Allemagne de l'après-guerre. Elle a pas de cap. L'Allemagne fonctionne sur la stabilité intérieure du pays. Tant que la chancellerie produit du plein emploi, ce qui est le cas, et une stabilité intérieure, on ne se pose pas trop de questions. Il n'y a pas une Weltanschauung, une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le rôle de l'Allemagne. Ils s'interdisent même à la voir.
Ils s'interdisent donc, même d'utiliser le mot puissance.
Voilà, donc c'est le résultat de la guerre et des années 30 qui sont très profonds. Donc on a une énorme puissance économique allemande, mais sans cap politique. Et à côté, des Anglais qui s'en vont.
Pas forcément. Enfin, on sait plus très
ils
bien.
Ont décidé de partir et des Français qui aimeraient bien piloter la chose politiquement mais qui ont décroché économiquement de façon maintenant très très sensible de l'Allemagne. Vous savez, moi j'ai été au ministre du Commerce extérieur et je l'avais dit ces chiffres publiquement. Je voulais marquer les esprits. Quand nous sommes à moins 60, moins 80 milliards de déficit commercial par an, les Allemands sont à plus 150, 200. Donc vous avez un différentiel de près de 300 milliards d'euros entre l'économie allemande qui produit et la France qui a de moins en moins de choses à vendre. C'est ça qui fait que nous pouvons avoir les discours politiques justes. Mais malheureusement, quand il s'agit d'asseoir notre force, le dilemme, il est là. On a besoin de l'effet multiplicateur de l'Europe, mais on ne l'obtient pas parce que les autres ne sont pas sur la même ligne que nous. Et le résultat, c'est que, au final, même si on est des alliés les plus gentils des États-Unis aujourd'hui, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Mali, Dieu sait qu'on en fait des choses avec les Américains. Eh bien, sur le plan économique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas payé de retour.
Alliés d'un côté, ennemis de l'autre. Ouais. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Pierre Lelouch et Ali Laïdi, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, comment les États-Unis sont devenus les gendarmes économiques de la planète? Nous retrouvons nos invités Pierre Lellouche, avocat, ancien ministre, co-auteur avec Karine Berger d'un rapport d'information parlementaire sur l'extraterritorialité du droit américain, et Ali Laïdi, chercheur associé à l'IRIS, chroniqueur à France 24 et auteur de Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Ali Laïdi, les recours, alors on a parlé des division européenne, la position à avoir face aux États-Unis, à ces lois d'extraterritorialité. Il y a tout de même des outils dont l'Europe peut faire usage. Je pense à recours à l'OMC, éventuellement l'ONU. Et tout de même, pour ne parler que de la question iranienne, avec donc le départ des Américains de l'accord sur le nucléaire iranien, possibilité peut-être de se retourner contre Washington pour non-respect d'un accord signé ?
Ben oui, après tout, moi, c'est ce que je préconise devant les entreprises qui souffrent du retrait des Américains de cet accord-là. Mais je n'ai pas d'espoir. Je sais très bien qu'elles ne vont pas le faire. Mais à partir du moment où elles se sont retirées, donc elles respectent les sanctions américaines, elles peuvent tout à fait engager des poursuites devant les tribunaux américains au nom du fait qu'elles ont perdu un certain chiffre d'affaires parce que les Américains n'ont pas respecté leurs paroles et ont quitté. D'un point de vue juridique, ce serait possible, mais en effet, aucune entreprise ne s'est jamais élevée contre l'administration de la justice américaine, parce que on parle pas de justice, hein, faut parler d'administration de la justice américaine, parce que tout ça est une affaire de procureur, le juge venant tamponner, mais une fois que tout est dilé. Donc, il n'y a jamais eu ça. En revanche, on a vu des individus s'élever contre les lois extraterritoriales américaines, et bien leur en a pris. Notamment Lawrence Hoskins, qui est un des grands patrons aussi d'Alstom. Lawrence Hoskins a refusé de plaider coupable dans cette affaire de corruption qui liait donc Alstom. Il est allé devant les tribunaux américains et récemment, une cour d'appel américaine lui a donné raison en disant en effet qu'il n'y avait pas de lien qui permette à la justice américaine de poursuivre cet individu. Donc pas de lien entre ce qu'il avait commis et le territoire américain. Donc comme quoi, il faut pousser l'administration américaine devant les juges américains pour que ces juges américains estiment les limites des pratiques de cette administration américaine ou les autres autorités de poursuite américaine. Mais tant qu'on le fera pas, on ne saura pas exactement ce que pense la justice américaine, voire même la Cour suprême des États-Unis, des pratiques de l'administration de la justice américaine.
Alors, pousser jusqu'à la justice américaine, Pierre Lellouche, évidemment, ce sont des démarches extraordinairement coûteuses, j'imagine. On a du mal à comprendre, mais on s'imagine.
Non, mais dans le monde réel, les grands groupes qui ont pignon sur rue aux États-Unis n'ont pas envie de se prendre bille en tête l'opinion publique américaine sur l'histoire de terrorisme d'Iran et autres. Ils ne vont pas mettre en question la politique américaine dans les tribunaux. Ça va être très compliqué. Quand j'étais à la commission des affaires étrangères, j'ai vu arriver des textes devant la commission qui étaient complètement baroques et que tout le monde laissait passer comme ça, jusqu'à ce que je dis on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Un exemple. Il y a eu un accord gouvernemental signé par Laurent Fabius avec son collègue de l'époque visant à donner une somme de 60 millions de dollars au Trésor américain pour indemniser les ayants droit des victimes de la Shoah transportées par la SNCF pendant la guerre. J'ai dit, mais pourquoi il faut donner 60 millions de dollars ? Nous, on a un fonds d'indemnisation. Deuxièmement, l'accord nous traitait comme état successeur de Vichy, ce qui est contraire à tout le droit. Moi, j'étais horrifié, j'ai demandé à ce que l'accord soit modifié. Mais pourquoi est-ce que la France avait signé ça ? Bah, parce que la SNCF était constamment harcelée dans les tribunaux américains aux États-Unis, qu'elle ne pouvait pas vendre de train tant qu'elle était constamment harcelée pour complicité de crimes contre l'humanité. Autre exemple, je vois arriver un jour une convention fiscale qui s'appelle la loi FATCA, qui fait que chaque US person, alors une US person, ça peut être quelqu'un qui est né aux États-Unis, qui parle pas l'anglais, qui est juste né aux États-Unis, qui est revenu en France ou n'importe où au Zimbabwe, et tout d'un coup va être considéré comme un US person. Donc la banque chez qui il a une carte de crédit et un chéquier va être comptable de transmettre toutes les données aux États-Unis, à l'IRS, au Trésor américain, faute de quoi elle va avoir une pénalité énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes américain ou si vous êtes né aux États-Unis en France, vous êtes obligé de remplir toute sorte de papiers. En général, la banque ne va pas vous donner de compte, ni de chéquier, ni de carte bleue en France. Vous ouvrez un compte dans n'importe quelle banque française, vous allez remplir 8 pages de documents américains que le Parlement français a autorisé, contre mon avis, qui font que nous appliquons tout seul une loi américaine traduite à la virgule près. Vous m'entendez ?
Sans réciprocité, puisque c'est
sans aucune réciprocité. Mais ça, c'est ce qui a été fait par le gouvernement précédent. Dans l'affaire iranienne, si demain Total, Airbus ou autre veulent aller devant quelqu'un aux États-Unis pour se battre, pour vendre quelque chose en Iran, ils n'y arriveront pas. Parce que ça va prendre des années et qu'elles vont ternir leur image sur le marché américain. Donc pour la plupart des grands groupes, ou des banques, parce qu'il y a eu aussi l'effet BNP, 9 milliards de dollars de pénalités pour contournement de sanctions. Aucune banque aujourd'hui ne va financer un projet de quelque valeur que ce soit en Iran, de peur de prendre des amendes absolument énormes. Il y a une autre banque anglaise vient d'être sanctionnée il y a quelques jours.
Ni même à Cuba.
Alors, une solution, ce serait aussi de faire davantage usage de l'euro dans les transactions.
Oui, mais la part de l'euro dans les transactions internationales n'a cessé de baisser au fil des années.
Oui, mais par
donc
exemple,
on voulait en faire une valeur.
Pourraient acheter leur Airbus en euros.
Oui.
Ils les achètent en dollars.
Oui, mais tout le monde dans l'aéronautique utilise le dollar et on n'a jamais réussi à imposer jusqu'à présent. Mais enfin, tout ça se corrige.
Mais ce à quoi vous appelez, c'était une réactivité beaucoup plus forte.
Pour régler ça, il faut une volonté
prise
politique.
Prise de conscience politique.
Qui pour l'instant n'existe pas et qui est très très minoritaire. C'est quelques personnes qui ont travaillé sur ces dossiers. Les autres, en général, rasent les murs ou vont demander la permission. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires français, quand je les ai interrogés à l'époque, ils avaient le plus grand mal d'ailleurs à dire aux entreprises françaises de ne pas chercher un deal. Donc elles y vont avec le canne, le chapeau et l'avocat américain. On va à l'OFAC à Washington, l'Office of Foreign Asset Control, et on négocie si on peut vendre telle ou telle chose dans tel ou tel pays. Et si on ne peut pas, préemptivement, ça arrête.
Alors tout cela, c'est évidemment beaucoup d'argent pour les Américains. Hein. Vous donniez les chiffres, je ne sais pas, depuis...
ils ont dépassé 30 milliards.
30
maintenant,
milliards. 30 milliards. Et ce sont des primes aussi versées à tous les services qui sont impliqués, les avocats. Alors, dans ce registre de la guerre économique, de la guerre commerciale, les ennuis de Boeing aujourd'hui, Lee Lady, est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir un effet taquet sur Airbus?
En tout cas, les Américains sont à l'affût sur la problématique d'Airbus, qui s'est auto-dénoncé à la justice anglaise, à la justice française, pour avoir omis de déclarer un certain nombre d'intermédiaires dans un certain nombre de marchés. Donc, l'espoir de Tom Enders à l'époque, qui dirigeait Airbus, n'est plus lui aujourd'hui, était en effet de couper l'herbe sous le pied des Américains en disant, regardez, la justice française et anglaise s'en occupe, donc merci de ne pas venir sur ce terrain. Manque de bol, l'administration de la justice américaine a estimé que c'était aussi son devoir et donc a demandé un certain nombre d'informations à Airbus. Et dans son dernière déclaration de son assemblée générale, vous voyez même combien ça a coûté à Airbus, plusieurs centaines de millions de dollars, rien qu'en frais d'avocat. Donc toute la question sur cette affaire est assez simple. Combien Airbus va payer d'amende sur cette affaire-là? C'est clair, si c'est moins d'un milliard de dollars, les Américains vont pas apprécier. 2 ou 3 milliards de dollars, ils vont peut-être commencer à prendre les Européens au sérieux. Mais évidemment, ça va plomber les comptes d'Airbus, c'est clair.
Bah, faut savoir que tout ça se passe dans une guerre commerciale totale entre Airbus et Boeing. Oui. Boeing a obtenu la condamnation d'Airbus pour des primes d'État jugées illégales par l'OMC.
Vice-versa.
Et nous, Airbus. Nous avons, et là j'étais aux manettes à l'époque, nous avions, nous, poursuivi les Américains pour financement illégal de Boeing, et notamment ils le font par le ministère de la Défense et autres. Mmh. Donc tout ça va se croiser, mais ils ont maintenant ajouté cette affaire d'application de la lutte anticorruption, et donc ils sont en train de chercher Airbus sur ce terrain-là. Bien entendu, les Américains, eux, n'ont jamais versé de pot de vin, jamais. Il n'y a que les Européens qui...
Cela, bien sûr, avec l'ironie qui sied à la tonalité de l'émission.
Voilà, ils sont d'une propreté absolue, tout le monde le sait. Et il n'y a que les vilains européens et les Chinois. Maintenant, ils s'en prennent aussi aux Chinois.
Justement, les Chinois et les Russes qui ont été épargnés pendant longtemps, est-ce que c'est parce qu'ils ne faisaient pas partie de la convention de l'OCDE sur la corruption? Ça n'a rien à voir.
Non, les Russes n'ont pas été...
Et l'Inde aussi, particulièrement épargnée. Et donc, les choses changent.
Ça change. Les Russes font l'objet d'un mur de sanctions américaines, mais politiques.
Oui.
L'Ukraine, tout un
tas
de choses.
Des entreprises moins exposées aussi.
Et puis aussi les droits de l'homme, avec la Magnitsky Act. Là, on va chercher les oligarques, l'entourage de Poutine. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs que même si demain Poutine avait décidé de devenir un très gentil garçon et le meilleur ami des Américains, il aurait le plus grand mal à le faire, puisque les lois sont en place. Ouais. Et que donc, avant que ces lois soient modifiées, il va se passer beaucoup, beaucoup de temps. Le résultat final, c'est de mettre la Russie dans un coin, en vérité. Elle ne peut pas aller autrement que de continuer à faire ce qu'elle fait. Puis nous, de suivre les Américains, puisque, là encore, les Européens n'ont pas le courage de dire « Attendez, peut-être que sur l'Ukraine, la répétition automatique tous les 6 mois des sanctions, c'est peut-être pas la meilleure chose. Est-ce qu'on peut... » Eh ben non, les sanctions sont reprises automatiquement.
Idem sur la Chine. On est en train de se mettre derrière les Américains. Regardez les dernières communications du Parlement et de la Commission, qui datent du 12 mars, hein, donc c'est pas vieux. Là, ils se mettent à parler de réciprocité, mais dans le rapport avec la Chine. Moi, ce mot réciprocité, je l'ai jamais entendu dans le rapport avec les États-Unis. Or, depuis la problématique chinoise, on a le sentiment qu'en effet, les Européens se mettent derrière les États-Unis pour affronter la Chine.
Voilà. Alors, sur la Chine, la nouveauté, c'est que en quelques mois, là, les Américains, ça y est, ont tapé une firme qui fait des...
Huawei.
D'abord, ZTE, ils ont tapé ZTE, qui font des microprocesseurs.
Ils ont failli la mettre en l'air.
Et là, ils lui ont collé une amende de 1 milliard. Et 10 ans de surveillance aux frais de ZTE. C'est-à-dire que là, vous avez un bataillon d'avocats américains qui se mettent dans la boîte et qui transmettent à Washington toutes les données tous les mois pour s'assurer que la boîte est vertueuse. Ça, c'était ça, ou bien ZTE ne vendait plus rien aux États-Unis. Ensuite, il y a eu naturellement l'affaire Huawei, où là, ils ont carrément demandé l'arrestation de la fille du fondateur, la directrice financière de Huawei au Canada. Donc, toujours. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois? Ils ont commencé à arrêter des Canadiens, naturellement, ils ont mis en prison en Chine. Et puis surtout, les Américains ont lancé ce qu'ils appellent une initiative Chine, qui consiste à appliquer la loi FCPA anticorruption aux entreprises chinoises qui participent aux nouvelles routes de la soie. Donc, les Chinois ne se privent pas de donner quelques primes à chaque fois qu'il y a un investissement quelque part. En général, il y a des retombées, si j'ose dire. Et donc, les Américains ont décidé de poursuivre. Et les Chinois ont réagi en prenant une loi de blocage qui interdit explicitement aux entreprises chinoises de se soumettre à toute enquête étrangère. Et là, on va voir ce que ça va donner. Naturellement, il faudrait que du côté européen, on fasse exactement la même chose.
Alors, en France,
la réforme de la loi de blocage est en cours.
C'est une proposition de Gauvin, Monsieur Gauvin, qui est député, au Premier ministre.
Mais nous l'avions proposé, nous, en 2016. Voilà. Mais il ne s'est rien passé depuis 2016.
Voilà. Bon,
et de toute façon, la loi de blocage stricto sensu française n'aurait d'effet que si elle est partagée par les autres Européens. Aujourd'hui, le commerce, comme vous le savez, en Europe, il est fédéralisé.
Ouais. Mais regardez ce que cette loi dite de blocage, encore une fois, elle a été baptisée par les Américains ainsi, et même jusqu'à la Cour suprême qui a estimé que n'ayant pas été utilisée en France, elle n'existe pas, cette loi, en gros. C'est quoi cette loi dite de blocage et les propositions du rapport Gauvin? C'est de taper sur les entreprises européennes. Donc la réponse politique, elle est où? Elle est sur le fait de dire, vous, entreprises européennes, à qui on a dit plutôt de se plier pendant toutes ces années, parce que valait mieux pas se confronter à l'administration de la justice
américaine. Enfin, beaucoup n'osaient pas avouer non plus et faire remonter les informations auprès des institutions de chaque pays quant à ce qui se passait avec les Américains.
Ils n'avaient pas intérêt, ils étaient en train de se plier tous chacun de leur côté. Je porte le témoignage d'un certain nombre d'avocats qui reconnaissent qu'ils ont donné des milliers d'informations en ne respectant pas la loi française à l'administration de la justice américaine. Il y en a un qui me dit même, que je cite dans le livre, qui dit « J'en avais marre de coucher avec l'ennemi ». Avocat d'entreprise européenne qui a travaillé à décharge contre son client, etc. Oui, donc, si Gauvin s'est amené encore plus frapper les entreprises européennes...
Pierre Lelouch.
Je ne veux pas être trop technique, mais il y a deux choses. Il y a l'interdiction d'une entreprise qui est visée de se soumettre à une juridiction étrangère. Je pense que ça, c'est très sain. À condition aussi qu'on poursuive les sociétés de l'autre camp.
Depuis 68.
Et puis, il y a les mesures de sauvegarde de l'information. Quand vous avez un contrôle, ce qu'on appelle maintenant un processus de conformité, donc vous avez des contrôleurs qui s'installent dans l'entreprise, aux frais de l'entreprise, ça coûte des fortunes, et qui transmettent des informations à Washington. Et là, on devrait être capable de contrôler l'information. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, et ce sont les cabinets américains qui ont la haute main sur les contrôles des sociétés étrangères et françaises. Donc, tout ça doit être changé vigoureusement. Ça peut l'être, s'il reste encore le réflexe de souveraineté en France.
Oui, il n'est pas trop tard par rapport à tout cela, et c'est peut-être, on va aborder malheureusement le début de la conclusion de cette émission. Vous évoquiez, Pierre Lelouch, cette fin de souveraineté, la soumission de l'Europe, de la France, et cette politique américaine qui prive finalement la France et l'Europe peut-être aussi d'une politique étrangère. Et au-delà de cela, est-ce que tout ce que les Américains sont en train de mettre en place et ont déjà mis en place, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ça peut se retourner contre eux et comment ?
Je vois pas que ça se retourne. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en général, quand les Américains font quelque chose tout seuls, en général, à la fin, il y a une grosse bêtise. Donc s'il n'y a pas de contrepoids et il n'y a pas d'alliés autour ou de gens autour qui essayent de contrôler la dynamique interne, parce que ce qui se passe, c'est de la dynamique politique intérieure américaine.
Ouais.
Toutes ces lois, c'est le résultat de groupes de pression et de lobby qui s'exercent au Congrès et toute la semaine, vous avez quelque chose de nouveau. Ça peut être sur l'électronique, ça peut être sur Israël, sur l'Iran. Donc c'est incontrôlable. Et ça fait belle lurette qu'aux États-Unis, vous n'avez plus de consensus bipartisan. C'est ce que regrettait Kissinger il y a déjà 25 ans.
Ce qui génère un vide politique et c'est ce vide politique qui fait que tout ce lobbying.
Il n'y a pas de vide politique, il y a un chaos politique. Il n'y a plus de cap. Aujourd'hui, on vit au rythme des tweets de Trump. Tant qu'il y a 3% de chômeurs aux États-Unis et que l'économie américaine tourne, ça ne risque pas de changer. Et plus ils sont puissants, plus ils vont continuer à s'asseoir sur tout le monde.
Mais c'est pas lié à Trump, évidemment.
Mais ça a bien montré que tout à fait dans l'émission on a déjà parlé.
On a bien montré que ça
a démarré même sous Reagan.
Voilà. C'est plus maîtrisé.
Sous De Gaulle.
Alors certains Américains sont en train de poser quand même le problème en disant est-ce qu'on va pas trop loin vis-à-vis de nos alliés, est-ce qu'on va pas casser quelque chose, est-ce qu'on n'a pas tort aussi d'interdire d'user du dollar comme ça, est-ce qu'ils vont pas utiliser plutôt l'euro, le renminbi, etc. Donc ils sont ultra minoritaires. On l'entend un petit peu. On a des juges aussi américains qui commencent un petit peu à refuser de tamponner les accords en disant mais attendez, est-ce qu'on fait vraiment notre travail nous quand on arrive juste à la fin d'un accord entre l'entreprise et l'administration de la justice et qu'on se contente de tamponner. Donc il y a quand même des petites réflexions aux États-Unis, mais il y a rien à attendre des États-Unis.
Oui,
on a
tout à attendre d'une
volonté politique européenne d'abord.
Là où c'est très pervers, c'est que beaucoup de cet argent dont on parlait, des dizaines de milliards de dollars, sont répartis. C'est des chasseurs de primes.
Oui.
C'est les procureurs de New York, c'est telle officine qui va toucher de l'argent. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête depuis les États-Unis. Et encore une fois, la dynamique interne américaine, elle va continuer. Donc la seule chose qui peut stopper la chose, c'est qu'ils se heurtent à des murs. Si jamais, chose que les Américains regardent, par exemple dans ce que nous avons fait, dans le rapport et puis dans la loi Sapin, c'est notre capacité de les poursuivre. Ça, ils notent.
Voilà, mais elle le fait pas.
Si on tape Apple fiscalement. Oui. Ça y note. Mais si on n'est pas capable de fiscaliser l'activité américaine en Europe, pourquoi voulez-vous qu'il fasse à notre place ? Donc, c'est une question de rapport de force. Soit l'Europe est encore en état d'instituer un rapport de force, et là, il se passera quelque chose, soit nous allons juste servir, et ce que je crains le plus, de champ de bataille
entre les deux.
Au jeu géopolitique du XXIe siècle, qui est l'affrontement entre la Chine et les États-Unis.
Voilà.
Parce que la Chine, elle va résister. Ils ont déjà pris des mesures et ils aiment pas qu'on mette en prison la directive financière de Huawei. Ils arrêtent les gens, ils ont des moyens de rétorsion et ils pénètrent, même en Europe. Ils ont regardé le sommet 16+1, ce qui est quand même tragique quand vous pensez que l'Europe des 28, les Chinois ont réussi à la faire éclater en deux tout de suite. Ce que je crains, moi, c'est que nous soyons déjà au point de non-retour où nous sommes en train de devenir le champ de bataille de l'affrontement sino-américain. Au lieu d'être un troisième pôle capable de se faire respecter et d'exiger la réciprocité des deux côtés.
C'est d'un bon de la farce. Sauf que ça va se payer, ça, Pierre Lellouche, d'un point de vue politique. C'est-à-dire la montée des populismes.
Mais
c'est comme ça qu'on va payer cette inaction totale de l'Europe et son incapacité à porter le rapport de force et à être ce que vous appelez, ce que moi j'appelle le dindon de la farce.
C'est celui qui a passé 25 ans en politique qui vous le dit. Ça devrait être au cœur de la campagne européenne. Est-ce qu'il reste encore un objectif de souveraineté européenne ou c'est fini ? Si c'est fini, nous allons en effet, comme dit M. Leidy, être en face de plus en plus de gens qui vont être très malheureux parce qu'ils ne vont pas être protégés, qui vont être frustrés, qui ont le sentiment de ne plus contrôler leur destin. C'est ce qui est en train de nous arriver.
Alors, ça ne nous fait pas terminer cette émission sur une note positive. On l'a bien compris, grand risque pour l'Europe d'être au milieu de ce champ de bataille entre, d'une part, les États-Unis et, d'autre part, la Chine. C'est la fin de Géopolitique. Merci, Pierre Lellouche. Je rappelle que vous êtes avocat, ancien ministre, co-auteur avec Karine Berger d'un rapport d'information parlementaire sur l'extraterritorialité du droit américain. Un droit américain que vous connaissez bien pour être diplômé d'Harvard. On ne l'a pas évoqué précédemment, mais ça donne un tout petit peu les explications quant à ces éclairages que vous avez pu nous apporter. Et Ali Laïdi, chercheur associé à l'IRIS, chroniqueur à France 24 et auteur de Le Droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes aux éditions Actes Sud. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. À samedi prochain.